Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur montre aujourd'hui sa gloire sur le mont Tabor à trois de ses apôtres. Trois apôtres choisis parmi les douze. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont eux qui vont être ceux qui vont être pris par Jésus pour le suivre au jardin des Oliviers afin qu'il prie pour lui, avec lui, dans cette agonie douloureuse. Aussi voulait-il les fortifier parce que face à cette épreuve, eh bien, il leur fallait pouvoir se souvenir de cet épisode extraordinaire où notre Seigneur, eh bien, a été transfiguré devant eux. Cet épisode de la transfiguration leur annonce également sa résurrection. Et notre Seigneur non seulement manifeste ce qui sera plus tard encore plus que cela, à savoir sa résurrection, et il le dit également de manière orale, afin que cette manifestation ne soit pas seulement quelque chose qui reste dans leurs yeux ou qu'il soit attribué à une imagination, mais bien qu'il y ait une révélation contenue, révélation orale ici même. Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Il y a donc bien eu vision, il y a donc bien eu prédiction de sa propre résurrection. La transfiguration de Jésus est en effet une anticipation du dimanche de Pâques, de ce qui va se passer le dimanche de Pâques, même s'il n'y a pas glorification totale qui est réalisée. Toute sa divinité, aujourd'hui au mont Tabor, toute sa divinité investie comme physiquement son corps et ses vêtements via son âme qui est complètement baignée dans la vision béatifique. À ce moment, on peut dire que le Christ laisse libre cours à sa divinité. Lui qui est vrai Dieu, vrai homme, eh bien, toute sa divinité va pénétrer même ses vêtements. C'est l'inverse de ce qui va se passer à la croix. Aujourd'hui, la divinité resplendit à travers le corps. À la croix, elle va comme être mise, comprimée au plus haut point de son âme, afin de laisser le tourment de l'angoisse, eh bien, se faire jour, afin de pouvoir souffrir totalement, comme nous aussi, nous pouvons souffrir, et physiquement, et moralement. Aujourd'hui, le visage est apparu aux apôtres comme un soleil. À la Passion, à la croix, ce sera un visage complètement défiguré. On ne le reconnaîtra quasiment plus. Peut-être juste l'éclat des yeux. Aujourd'hui, c'est le vêtement blanc comme la neige qui éblouit littéralement les apôtres. C'est l'aube magnifique dont le Christ est revêtu. À la Passion, eh bien, on lui enlèvera ce vêtement, il sera nu, dépouillé de ce vêtement magnifique qui devrait l'honorer. Voilà pourquoi le Christ va fortifier ses apôtres, parce qu'ils vont être soumis à cette vision terrible de la Passion et de la croix. Voilà aussi pour nous une grande leçon d'espérance, parce que voilà ce à quoi nous sommes promis un jour, si nous comprenons cette phrase de saint Paul, « Voilà quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sainteté. » Et la sainteté pour un homme, elle va passer non seulement par la sainteté de son âme, mais aussi par la sainteté de son corps, puisque étant composé d'un corps et d'une âme, eh bien notre personne doit rayonner de la sainteté à travers toutes ses composantes. En ce temps de carême, eh bien, la sainteté va passer par la mortification. Mortification de toutes sortes, mortification de l'esprit, mais aussi mortification du corps, mortification de la chair, afin d'acquérir cette belle vertu de chasteté. La vertu de chasteté comporte l'intégrité de la personne pour pouvoir réaliser l'intégralité du don. Intégrité de la personne. La personne chaste, en effet, maintient l'intégrité des forces de vie déposées en elle, des forces de vie et d'amour, afin, eh bien, de pouvoir le donner un jour. Et cette intégrité assure l'unité de la personne humaine. Unité parce qu'elle se garde elle-même, et également, elle ne tolère ni la double vie, ni le double langage. La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi. L'alternative, en effet, est claire. Ou l'homme commande à ses passions et il obtient la paix, ou il se laisse asservir par ses passions et alors il devient malheureux parce qu'il devient tout simplement esclave. Il nous faut donc prendre les moyens pour garder ou acquérir, si on ne l'a pas encore, cette liberté intérieure face aux passions. Et en effet, comme toute vertu, c'est vraiment une liberté qui nous est donnée. Les moyens les plus classiques, eh bien, c'est la connaissance de soi, aussi alliée avec une certaine pratique de l'ascèse. Et il me semble, eh bien, qu'en ce carême, eh bien, une pratique de l'ascèse concernant le jeûne spécialement, eh bien, peut nous aider à acquérir progressivement cette maîtrise de soi tant vantée par saint Paul aujourd'hui. L'obéissance au commandement est également nécessaire. Les autres vertus morales, parce que vous le savez, il n'y a aucune vertu morale seule et autonome. Toutes les vertus morales doivent aller ensemble. La prière également, afin, eh bien, d'être parfois débarrassé d'un défaut, voire d'un vice qui est ancré en nous. Et enfin, la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, elle qui est la pureté même. La chasteté, dit saint Augustin, nous recompose. En effet, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. Et cela est bien vrai parce que depuis le péché originel, l'homme qui était composé, mais gardé dans l'unité par la grâce, eh bien, va se décomposer ou va être éclaté, éparpillé. Avant le péché originel, l'esprit de l'homme était tout tourné vers Dieu. Toute son âme étant tournée vers Dieu, avait une force, cette âme, afin de garder son corps. Tout le corps était sous la maîtrise de l'âme. Et en plus, il y avait certains dons préternaturels afin, eh bien, que la grâce puisse vraiment fortifier tout, eh bien, notre corps, fortifier tout notre âme et qu'il y ait une réelle harmonie entre les deux. Malheureusement, depuis le péché originel, je pense que tout homme, sauf la Sainte Vierge, eh bien, a expérimenté cette disharmonie, a expérimenté, eh bien, justement, le fait qu'il faut recomposer cette harmonie originelle. Et cela prend du temps. La maîtrise de soi est une œuvre de longue haleine. C'est pourquoi saint Paul peut dire dans l'Épître aujourd'hui, « Vous avez appris de nous comment vous devez marcher pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous marchez. » Mais il ajoute, progresser encore. On a toujours, eh bien, à progresser dans chacune des vertus. Il ne faut jamais se décourager et au contraire, revenir au Seigneur sans jamais se lasser. S'il y a bien des fautes qui, eh bien, découragent profondément et font manquer progressivement d'espérance, comme le dit très justement saint Thomas d'Aquin, eh bien, ce sont les fautes qui concernent l'impureté. Aussi, eh bien, il faut revenir sans cesse se confesser, revenir sans cesse à demander pardon au Seigneur afin de devenir fort. L'éducation et la protection de la jeunesse est extrêmement importante en ce domaine. Sinon, il y a une fragilité qui se développera et qui restera, même si la grâce de Dieu, et bien progressivement permettra à la personne de se débarrasser de cette fragilité. La chasteté est aussi un fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, en nous, eh bien, va produire quelques fruits comme la patience, la longanimité, etc. Et aussi la chasteté. Aussi, eh bien, il faut comprendre qu'il faut éduquer et protéger. Il y a les deux à l'heure actuelle parce qu'on est dans un monde pervers, on est dans un monde qui est baigné dans l'hédonisme, et il faut à la fois protéger les plus petits, évidemment, cela paraît logique, mais il ne faut pas seulement faire que protéger, parce que protéger, eh bien, c'est juste pour empêcher un choc psychologique, on va dire, ce qu'il faut pour empêcher de tomber dans le péché, mais ce qu'il faut aussi, et je dirais même avant tout, c'est l'éducation. La vie chrétienne n'est pas de porter des œillères autour des yeux, la vie chrétienne est de pouvoir marcher tranquillement partout. Comme dit saint Paul, tout est pur pour les purs. Il faut pouvoir traverser le monde impur en gardant une grande pureté. Et cela ne se peut que si on est fort intérieurement, que si la vertu a été véritablement enracinée, développée en nous depuis notre plus jeune âge. Aussi, la chasteté est une véritable construction de la personne. Ce n'est pas un aspect négatif du « c'est pas bien », mais au contraire du « nous voulons garder la chasteté et la pureté pour un bien ». Pour un bien, nous voulons nous construire pour garder notre liberté, pour pouvoir un jour nous donner. L'intégralité du don de soi peut donc être réelle s'il y a la chasteté, car alors il y a don total. Nous ne sommes pas divisés en deux. Que ce soit dans le mariage et le don exclusif de sa personne à l'autre, à celui à qui on s'est donné, ou bien dans la virginité ou le célibat consacré, dans le don exclusif de sa personne à Dieu lui-même, eh bien, il faut la chasteté au départ. Et dans une autre mesure également, tout célibat simple, eh bien, peut être véritablement vécu dans, et doit être vécu dans la chasteté, afin, eh bien, que le don de soi désintéressé aux autres puisse se faire sans, eh bien, intention erronée. Enfin, eh bien, je crois que pour cette belle vertu de chasteté, elle se réalise de manière différente selon les états. Que ce soit, eh bien, la virginité consacrée, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le célibat, eh bien, systématiquement, ou dans le veuvage, eh bien, systématiquement, il y a des degrés de chasteté. Il faut grandir dans cette vertu et elle ne se négocie pas de la même manière selon les états. Aussi, ferai-je une mention spéciale ici pour les jeunes et pour les fiancés qui sont appelés à vivre la chasteté dans la continence. Et cela est absolument nécessaire pour que ce puisse se réaliser, eh bien, la découverte de l'autre et le respect mutuel. Pour grandir dans l'amour spirituel, il faut absolument cette vertu de chasteté, sinon on court-circuite ce dernier avec le risque, eh bien, de l'illusion de l'amour qui, finalement, eh bien, on le bâtit absolument bien sur une illusion. Alors, que ce carême soit donc marqué par la pureté de nos vies. Et s'il faut faire des efforts pendant ce carême, eh bien, faisons-les avec toute l'énergie spirituelle qui est en nous, et plus encore avec la grâce du bon Dieu. Rejetons de notre vie tout ce qui peut entacher notre corps et donc aussi notre âme, parce que les deux appartiennent à notre personne et sont unis, car nous sommes constitués dans cette unité de vie. Que Notre-Dame, la Vierge des Vierges, nous y aide, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.